Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Les nouveaux députés élus ont commencé donc à arriver au Palais Bourbon, gentiment aujourd'hui. Et à peine installés, les négociations promettent d'être animées à l'Assemblée pour tenter de constituer une majorité parlementaire. La grande coalition centrale que souhaite la majorité sortante a-t-elle une chance de voir le jour? Oui, si l'on en croit François Bayrou, qui était ce matin l'invité de nos confrères de France Inter.
Il faut vérifier les chiffres. C'est-à-dire, qui est capable de constituer un ensemble, on verra dans les jours qui viennent, quel est le rapport des forces en siège parlementaire. Les gens qui acceptent de se rapprocher pour constituer le socle de ce que pourraient être les années qui viennent.
Saura.
Vous excluez les extrêmes à l'extrême gauche et à l'extrême droite, et vous avez là un ensemble démocrates et républicains qui, selon moi, devraient se parler, se reconnaître, s'accepter et un jour prochain gouverner ensemble.
Nous sommes rejoints par Brice Hortefeux, député européen, ancien ministre de l'Intérieur. Erwan Balanant, qui est député réélu Modem du Finistère. Et Thomas Ménager, député réélu du Rassemblement National du Loiret, porte-parole du groupe à l'Assemblée. Amandine Atalaya, il y a l'optimisme de François Bayrou qu'on vient d'entendre. Et puis il y a la réalité des déclarations politiques depuis hier soir. Le PS et les FI ne veulent pas gouverner avec la Macronie, c'est clair pour l'instant.
Bah, c'est pas aussi... Tout le monde ne dit pas exactement la même chose, mais si on résume, la majorité des personnalités de gauche ne souhaitent pas aujourd'hui une coalition. Parce que notamment la France insoumise pèse lourd aussi au sein du nouveau Front populaire, qu'on dit qu'il ne s'agissait pas de tendre la main et que quelques voix chez les socialistes ou les écologistes se sont élevées pour dire qu'il fallait construire peut-être avec le centre, même éventuellement, on dit certains, avec la droite, mais ce sont pour l'instant des voix minoritaires. Après, tout ça est un processus qui commence à peine. Et pour l'instant, la gauche, on est à se chercher un candidat au poste de Premier ministre. Donc, laissons aussi le temps passer. On est au jour 1 et on verra comment tout ça évolue la semaine.
Oui, les LR, eux aussi, rejettent toute coalition. Et même au sein de la majorité sortante, Gérald Darmanin annonce qu'il refuse finalement de gouverner avec la gauche. Cette coalition paraît donc très hypothétique pour le moment. Brice Hortefeux, estimez-vous qu'il existe une voie qui permette de faire gouverner ensemble toutes les forces, à l'exception du Rassemblement national et de la France insoumise?
Je ne sais pas s'il y a une voie, mais en tout cas, il y a un parfum. Le parfum, c'est ce que je viens d'entendre, c'est le parfum de la 4e République.
Oui.
C'est-à-dire des discussions d'arrière-salle, des petites questions de boutique, des questions de personnes sous la table. Et aux Républicains,
il n'y a pas de questions de boutique sous la 5e République.
Aux Républicains, en tout cas, ce qui est certain, c'est que sous la 4e République, en 12 ans, il y a eu 24 gouvernements. Je ne sais pas si c'est votre référence, mais en tout cas, ce n'est pas exactement ce que je souhaite pour mon pays. Nous, c'est assez clair aux Républicains. On a une ligne d'autonomie, une ligne d'indépendance, et ça veut dire que, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, et quand les textes sont bons, quand c'est l'intérêt du pays, quand c'est utile à notre société, eh bien, les parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale l'approuveront. Et puis, quand on considérera que c'est au contraire, ça ne va pas dans le bon sens, eh bien, on le dénoncera.
Quel est l'objectif des LR aujourd'hui ? Jouer un rôle d'arbitre ?
Mais le résultat des élections permet de tirer deux enseignements. Un premier enseignement, c'est que les Républicains ont résisté. On expliquait que tout ça, ça allait être liquidé et ainsi de suite. Ils ont résisté et ils ont résisté de manière solide, même si, bien sûr, je ne suis pas pour autant satisfait qu'il n'y ait pas de rebond.
Vous êtes en mesure de gouverner.
Mais oui, nous nous trouvons de fait dans une position charnière. Et ce qui est vrai, c'est que sans les Républicains, je pense que pas grand-chose est possible. Et avec les Républicains, tout est possible.
Erwan Balanant, la suite logique du Front Républicain, c'est d'avoir une grande coalition et un gouvernement d'union nationale, j'ai envie de vous dire, sans les extrêmes. Est-ce que vous partagez cette analyse?
Oui. Par rapport à ce que vient de dire M. Brice Hortefeux, avec cet épouvantail de la 4e République, j'ai envie de lui répondre que c'est ce que font toutes les démocraties européennes matures, modernes. C'est-à-dire, elles travaillent, elles font des coalitions et à certains moments, on se met ensemble parce qu'on a moins de divisions que de... on a plus de choses en commun que de divisions. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne... ici, dans ce pays, aussi, à travailler comme cela.
On s'est construit historiquement dans la 5e République contre ce modèle que vous êtes en train de défendre.
Oui, mais
et
c'était...
qui ne nous a pas totalement mal réussi, si je puis me permettre. Bah, ça, on est la septième puissance, on reste la septième puissance économique au monde.
Évidemment. Mais
on est un grand pays démocratique, plein de défauts, mais un pays démocratique. Oui,
est-ce
ça fonctionne bien la cinquième.
Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre d'angoisses et de colères françaises qui sont peut-être issues justement de cette bipolarisation? Moi, j'ai été très frappé pendant cette campagne. Elle a été intense, elle a été courte, mais elle nous a permis d'aller au contact des gens. Et dans mon territoire, chez moi, j'ai senti ce besoin que l'on travaille ensemble et qu'on dépasse un certain nombre de clivages. Donc je pense qu'il faut entendre ce message. Et je le dis avec simplicité, aujourd'hui nous avons été... Il y a trois blocs.
Oui.
Deux blocs ont lutté contre le troisième, contre le Rassemblement national. Mmh. Et si ces deux blocs sont puissants, c'est justement parce qu'ils ont fait un certain nombre de désistements, d'accords pour lutter contre ce troisième. Et donc, ça nous engage, quelque part, à travailler ensemble. Moi, c'est ce que j'ai entendu comme message des Français. 66% des Français, grosso modo, ne veulent pas du Rassemblement national et se disent, quand vous travaillez ensemble, il y a peut-être des solutions. Eh bien, dont acte, allons-y. En tout cas, moi, c'est là-dessus que je suis.
Thomas Ménager, quelle est la meilleure option pour le pays, selon vous? Faut-il que la gauche gouverne ou tenter une coalition pour avoir la majorité à l'Assemblée?
Alors, ce qui est certain, c'est qu'en voulant bloquer le Rassemblement national, ils ont bloqué le pays. Et c'est ce qu'on avait dit, et c'est ce qui nous inquiétait, c'est qu'il y ait une paralysie. Monsieur Balanan vient de le dire, en finale, il y a eu une magouille, une tambouille qui a mené au final... Si, il y a eu des désistements.
Le RN ou le Bourbier, donc on est dans le Bourbier?
Je pense, c'est au moins tout ce qui pourra nous rassembler. Je pense qu'on est dans le Bourbier. Aujourd'hui, il n'y a aucune majorité qui peut se dégager.
On aurait pu avoir le RN et le Bourbier.
Oui, mais je pense que s'il y avait eu une majorité absolue et les mesures, parce que Monsieur Balanan, il y a quand même 34% qui ont approuvé le programme, mais les 66%, ils n'ont pas approuvé un programme avec LFI, avec le Modem, avec Horizon, avec les Républicains. Et aujourd'hui, il n'y a pas ce gouvernement possible que vous rêvez. Je pense que c'est impossible parce qu'on a aujourd'hui des gens qui sont contre la loi anti-squat que vous avez fait voter, qui sont contre la réforme des retraites que vous avez fait voter, et vous voulez gouverner. Donc le pire en plus dans tout ça, c'est que les électeurs centristes vont se polier, vont être totalement spoliés parce qu'ils vont avoir l'impression de se faire avoir parce qu'il y aura un programme de gauche qui va peut-être s'appliquer. Et au final, les électeurs de gauche vont aussi se faire avoir parce que déjà les socialistes disent sur la réforme des retraites, on va peut-être revenir, sur le blocage des prix, on va peut-être revenir. Donc au final, tout le monde va être déçu et les Français vont être dans une situation qui va être malheureusement de pire en pire.
En vous écoutant, je finissais par me demander, mais est-ce qu'il ne faut pas dire bravo Emmanuel Macron, parce que comme organisation, c'est pas mal. Enfin, Olivier Babeau, si la majorité sortante joue un rôle central et déterminant dans une nouvelle coalition qui dirige le pays, ça voudra dire qu'Emmanuel Macron a finalement gagné son pari de la dissolution, non?
C'est pas impossible. Mais c'est vrai
pas
que
impossible.
Le
oui.
parlementarisme est une chose formidable quand ça fonctionne.
Ah.
Et c'est vrai que ça fonctionne dans d'autres pays. Mais attention, ça
nous,
veut dire
que... Nous, on sait pas faire pour l'instant.
Il y a une sorte d'éthique, il y a une discipline très différente. Jusque-là, on votait sur un projet, non pas en fonction du projet, mais en fonction de celui qu'il portait.
Exactement.
Oui, c'est comme un état d'esprit très différent. Ça voudrait dire que tout le monde, mais vraiment tout le monde, change d'état d'esprit en disant, tiens, ce projet, c'est vrai, on est politiquement très très éloigné, mais tiens, sur celui-là, on va voter. Jusque-là, on a réussi à le faire sur l'IVG dans la Constitution, sur des choses extrêmement consensuelles. Enfin, la liste des projets consensuels, elle est malheureusement extrêmement courte. Et à vrai dire, on en a probablement déjà fait le tour. Peut-être la réforme des retraites pourrait trouver, l'abrogation donc, pourrait trouver une forme de majorité, puisque peut-être que le Rassemblement national s'y prêterait. Mais enfin, à part ça, je suis vraiment pas certain, et moi je regarde beaucoup, j'essaie spécialement sur l'économie, mais pas seulement, d'essayer de voir, encore une fois, les points de recoupement, les moments où les gens pourraient être d'accord. En réalité, la plupart du temps, c'est orthogonal. On n'est pas du d'accord. La plupart des gens ne sont pas du tout d'accord.
Je ne partage pas. Et les deux ans qu'on vient de vivre nous l'ont montré. C'est qu'il y a eu beaucoup plus de textes qui sont passés que de textes refusés. Et parfois sur des sujets importants pour les Français.
Et vous voulez dire la majorité sans...
Je vous invite même à regarder, et c'est intéressant parce que c'est peut-être là qu'il faut qu'on avance, c'est que le nombre de textes où il y avait zéro opposition, ils sont extrêmement nombreux. Je n'ai pas le compte.
Oui, oui.
Ils sont très nombreux où vous avez la bulle, contre la bulle, zéro. Et il y a un moment donné, il faut qu'on
sorte.
Vous
nous dites que ça marchait même si on avait une atmosphère délétère, c'est ça?
Ça marchait dans une atmosphère...
Vous êtes de merveilleux comédiens à l'Assemblée nationale.
Alors, ça marchait, c'était difficile et je pense que ce n'était pas satisfaisant. Donc, maintenant, on avance, il y a une clarification, il y a trois blocs. Trois blocs, comment on les fait vivre, c'est tout le sujet. Et je pense qu'il y a une urgence à aujourd'hui laisser décanter un petit peu tout cela et que chacun reprenne ses esprits et que... On laisse passer les jeux et qu'ensuite on avance.
Je vois Brice Hortefeux qui tapote du pied. Auparavant, Jean-Pierre Mignard, est-ce qu'il faut un nouveau projet rédigé par une coalition? C'est-à-dire finalement une sorte de programme électoral, in fine.
Oui, je pense d'abord, premièrement sur la retraite, je suis d'accord avec ce que dit Olivier Babeau. Il peut y avoir des accords, en effet, ça c'est juste. Deuxièmement, là, le Front républicain, je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire M. Béraud, parce que dans le Front républicain, il y avait LFI. Et LFI a bien voté pour des candidats LR, un candidat pour... Oui, c'est vrai. D'ailleurs, M. Darmanin s'en est félicité. Du jour au lendemain, il a fait semblant de dire dans la rue, non, je ne vous connais pas et je ne veux pas avoir affaire avec vous. Mais bon, donc sur ce point, voilà. Alors, le Front républicain, c'est tout cela. On ne peut pas ensuite dire, ben non, il y avait les bons, les mauvais avec un papier d'identité ou un certificat de vaccination. Ce n'est pas sérieux de dire ça. Il faut accepter la politique telle qu'elle est.
Mais
ça,
c'est un moment... je partage ce
mais
que
je
vous
sais,
dites.
Parce que je vous ai entendu, j'ai compris que vous le partagez. Et deux, troisièmement, le Front populaire doit effectivement... Il n'y a pas de programme de droite et de programme de gauche. Il y a un programme majoritaire dans l'opinion du public, dans le Parlement ou pas. Voilà, c'est ça. Et donc la bonne force politique, c'est la force qui cherche à avoir effectivement une approbation majoritaire. On ne va pas à chaque fois mettre des tampons comme dans l'Empire austro-hongrois pour savoir si c'était de gauche, si c'était de droite ou si c'était du centre. Et ça, j'en suis convaincu. Enfin, sur la 4e République, un court moment.
C'est plus facile pour compter les voix quand même.
Non, mais attendez, sur la 4e République, pourquoi c'est elle qui a reconstruit la France ?
Exactement.
C'est elle qui a reconstruit la France. Le programme nucléaire, tout, c'est elle, de bout en bout. Oui. Ce n'est pas quand même... Alors, elle a été débordée par les guerres coloniales, oui, et ça s'est terminé par des coups d'État militaires, mais c'est ça la vérité de la 4e République. Arrêtons de cracher sur cette vieille dame qui, finalement, n'a pas des mérites.
Alors, Brice Hortefeux, Cazeneuve, Barnier, Raffarin sont des hommes politiques d'expérience. Est-ce qu'il vous paraîtrait logique de les rassembler pour diriger le pays ?
Bon, écoutez, moi, c'est pas
c'est tout ce que vous détestez.
Ça. C'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Oui, j'ai écouté tout ce qui vient d'être dit avec beaucoup d'intérêt. Je vais vous dire la réalité. Qu'est-ce que perçoit le pays aujourd'hui ? C'est que c'est un désastre. C'est un désastre. Pourquoi est-ce un désastre ? Parce qu'il y a eu une dissolution qui a été décidée parce qu'il n'y avait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'était pour corriger la majorité relative. À l'arrivée, que se passe-t-il ? La majorité relative est encore plus relative qu'elle l'était précédemment.
Oui. Donc, pardon, ça s'appelle... Ce sont les Français qui l'ont décidé.
Hein. Ça s'appelle un désastre. Premier élément.
Ça s'appelle la démocratie.
Deuxième élément, parfois, ça peut conduire à un désastre. Vous savez, je pourrais vous donner des tas d'exemples.
Oui, oui. C'est un peu choquant d'entendre ça.
Mais... Ben, je pourrais vous donner des tas d'exemples. Ouais. Bon. Deuxième élément. Ça aboutit à quoi, tout cela ? Tout ce qui vient d'être dit. Ça aboutit, en réalité, à une paralysie. Et pourquoi je suis très inquiet ? Pourquoi j'emploie le mot désastre ? Parce que dans la démocratie, la paralysie, ça conduit au chaos. Et moi, je ne veux pas le chaos pour mon pays. Et c'est pourtant ce qui se dessine aujourd'hui.
Que voulez-vous pour votre pays dans les prochaines semaines ? Puisqu'on sait que vous... Comment on sort de ça ? Visiblement, vous nous avez dit dans vos premières interventions qu'il était hors de question que la famille politique qui est la vôtre s'associe pour l'instant à rentre dans une alliance quelconque et notamment une grande alliance.
Oui, mais... Pardon, c'est un sujet de fond. Et là aussi, je suis en désaccord avec une partie de ce qui vient d'être dit. Moi, je suis convaincu que la démocratie, c'est la confrontation des idées. C'est ça, la démocratie. Et la confrontation, elle doit se faire entre la droite et la gauche. Et c'est de là que naît le progrès. C'est la confrontation de la droite et la gauche. Et tout ce qui se passe depuis 7 ans, c'est précisément de nier cela et d'essayer de faire différemment. Et on aboutit à quoi ? À la poussée de l'extrême droite et à la poussée de l'extrême gauche. C'est ça le bilan et c'est un beau bilan, franchement.
Jean-Pierre Mignard.
Oui, enfin, c'est pas très exact non plus, parce que il y a dans la vie de la droite et de la gauche des moments, effectivement, de convergence entre la gauche et la droite.
Bien
sûr. Si on parle effectivement du gaullisme, le nombre de fois dans les moments stratégiques,
exactement.
Je dis bien stratégiques, où la gauche est venue en appui au général de Gaulle, c'est majeur. Et dans les moments clés de notre existence, donc on peut pas dire ce sont deux camps absolument irréconciliables.
Bien sûr, mais en tout cas, c'est pas ce que j'ai dit d'ailleurs.
Ouais, quand on vous entend, monsieur Hortefeux, on a le sentiment que vraiment, il y a des pare-feux que décidément personne ne
peut parler. Je dis oui qu'on a besoin dans une démocratie de la confrontation. Mais pour que la confrontation, pour qu'elle soit utile, il faut qu'elle se fasse dans la clarté. Et là, tout est fait pour que ça soit dans l'opacité. C'est pour ça que je le condamne.
Oui. Mais où est l'opacité, là ? Il y a eu un résultat.
Oui.
Il y a eu un résultat, il y a eu un front républicain qui s'est mis en place, qui a coûté à certains de ne pas pouvoir se maintenir, de la majorité, l'ex-majorité. Et puis, dans l'autre, dans ma circonscription, il y a deux candidats qui...
Vous trouvez que ça a clarifié?
Il y a deux candidats qui ont abandonné leurs espoirs, leurs idéaux pour faire ce front républicain. Ça a été très clair.
Mais ça ne fait pas un projet. Mais un front républicain, ça ne fait pas un projet. Parce que, chers collègues, qui a voté? Ce n'est pas la gauche qui a voté la LOPMI, qui a été en soutien au gouvernement. Ce n'est pas la gauche qui a voté la loi immigration. C'est le Rassemblement national. Pareil sur la loi de programmation de la justice. Excusez-moi de vous le dire. C'est une réalité. Il faut regarder ce qui s'est passé.
J'étais rapporteur de la loi de programmation de la justice.
Vous connaissez les votes.
Elle passait sans vos voix. Vous avez choisi de la soutenir.
La gauche a voté quel texte? Elle a voté quel texte parmi ces trois-là? En commission des lois où nous sommes ensemble, chers collègues.
Juste sur ce sujet, moi je veux bien. Vous n'avez pas non plus de projet. Vous n'avez pas non plus de projet. Vous êtes des surfeurs. Vous surfez sur le mécontentement.
Quel mépris pour 10 millions de Français. Vous croyez que les Français ont voté seulement
moi
contre...
je le dis.
Non, ils ont voté sur un projet.
Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. La plupart des électeurs du Rassemblement national, et moi j'ai fait le choix d'aller leur parler, d'aller comprendre et d'aller essayer de leur dire qu'est-ce qu'on doit changer pour que vous ne votiez pas Rassemblement National, parce que j'en ai vu un certain nombre qui m'ont dit « Moi, je vote Rassemblement National, mais j'avoue que les frasques du candidat un tel, ça m'effraie. Mais je vote contre le Rassemblement National, pour le Rassemblement National, parce que je suis en colère et je suis angoissé sur l'avenir du pays. » Et c'est ça qu'il faut qu'on entende. Et l'enjeu...
Emmanuel Macron disait la même chose quand il a été élu.
Oui.
Hein.
Oui.
Quel résultat? Quel résultat sur le quotidien des Français, sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur l'immigration, sur la santé?
C'est pour
aucun
ça.
Alors, et la situation, malheureusement,
en attendant de savoir comment sortir de cette crise inédite, voyons ce que pensent nos voisins de tout cela. C'est notre séquence Les Éclaireurs. Bonsoir Maëva Lamy.
Bonsoir Yves.
La presse étrangère a évidemment mis la victoire surprise de la gauche en avant, mais aussi la contre-performance du Rassemblement national.
Exactement. Et finalement, la réaction la plus généralisée qui est ressortie chez nos confrères étrangers, c'est la surprise. On va regarder la une de The Guardian, un quotidien britannique de centre-gauche qui évoque l'élan surprise de la gauche qui propulse l'extrême droite française à la troisième place. Il parle donc d'un élan surprise. On va prendre un autre exemple de justement cet étonnement à l'étranger avec le quotidien grec Tanea, qui est un journal, lui, conservateur, qui évoque un renversement complet. Et sur son site, il évoque la plus grande surprise de la Ve République.
Une surprise, Maëva, accompagnée souvent de soulagement.
Hein. Et oui, très souvent, sur de nombreuses unes, des titres qui parlent de soulagement et qui montrent les scènes de liesse en France. Je vous ai pris quelques exemples. La Repubblica, un quotidien italien qui titre « Révolution française » avec une image de la foule rassemblée place de la République. Le quotidien raconte la surprise, mais surtout les câlins, la fête et les larmes de joie place de la République. Un autre exemple, le quotidien belge Le Soir qui parle de la victoire du Front républicain, ou enfin le quotidien grec qui s'appelle EFSIN et qui titre en français Vive la France. Et cette joie, eh bien, elle est incarnée par un homme triomphant, souriant, c'est bien sûr Jean-Luc Mélenchon. Là, vous le voyez, il est en une de La Libre Belgique.
Soulagement, mais aussi des inquiétudes, puisque la presse étrangère redoute en fait un blocage politique pour notre pays.
Et tout à fait. Aux États-Unis, par exemple, le site web du New York Times dit à ces mots, le résultat n'a laissé aucun parti avec une majorité absolue et la France se prépare à une potentielle paralysie politique. On a un autre exemple de ces inquiétudes, c'est en Suisse. Le Temps, avec cet encadré que vous voyez sur le côté, qui titre « Une France renversée, mais dans le flou ». Et on peut y lire à l'intérieur de ce papier ces mots « Comment le pouvoir se partagera-t-il dans un pays qui ne connaît pas la culture du compromis ?» On peine à l'imaginer.
Merci beaucoup Maëva Lamy. Brice Hortefeux, dans des situations comparables à la nôtre, certains de nos voisins ont fait le choix d'un gouvernement technique en attendant les prochaines échéances électorales. C'est notamment le cas de l'Italie. Hein. Peut-on envisager la même chose en France? Est-ce que vous pensez qu'il y a des moments dans l'histoire de notre pays où on peut se mettre entre les mains de techniciens qui font tourner la machine pour une intérim?
Moi, je n'ai pas de référence, en tout cas, sous la Ve République, au gouvernement technique, mais j'ai en revanche des souvenirs de gouvernement dans lequel il y avait des techniciens. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est pour ça que je n'y crois pas.
Olivier Babeau, il y a quelque chose à chercher, là?
On peut imaginer une coalition modérée. Le problème, c'est que les défis sont extrêmes. Le défi, c'est d'abord le défi budgétaire aujourd'hui, le défi économique. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver rapidement des dizaines de milliards d'euros dans des circonstances très difficiles.
Là, je vous parle de gouvernement technique, de coalition de modérés.
Le problème, c'est que rien que faire le budget, c'est une décision politique très forte.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'un gouvernement technique, il pourrait faire quoi ? refaire tout à l'identique, déjà ça, c'est une décision très forte. Mmh. C'est une décision qui serait contestée. Même ça, dans les circonstances actuelles, ça sera très difficile. Parce qu'il faut quand même redire, la situation est très compliquée. Et c'est probablement d'ailleurs, c'est une des hypothèses sur la dissolution d'Emmanuel Macron qui serait que, voyant le problème du budget 2025 arriver, il aurait préféré, n'est-ce pas, c'est le jeu de la grenade dégoupillée, passer ça au suivant, en sachant très bien que tout allait exploser. D'ailleurs, Standard & Poor's a mis en garde sur les résultats la France.
Une des grandes agences
de notation.
De notation.
Ça allait pouvoir continuer la note à dégringoler. C'est aujourd'hui un enjeu très compliqué. Un gouvernement qui expédierait les affaires courantes, qui serait un gouvernement de techniciens, malheureusement ne pourrait pas s'empêcher d'être dans la situation actuelle, ça n'a pas été le cas tout le temps dans l'histoire, de prendre des décisions qui fâcherait une grande partie des gens dans l'hémicycle. C'est pourquoi on est condamné à faire de la politique.
Ça peut être une solution provisoire quand même ?
Moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout et je pense que c'est pas du tout ce qu'attendent les Français. Les Français aiment l'incarnation politique. Ils aiment savoir qui fait quoi et un gouvernement technique. J'y crois pas et je crois même que ça serait risqué parce qu'il devrait prendre des décisions qui ne seraient pas incarnées politiquement et qui éloigneraient encore le citoyen de la décision politique. Et en Italie, je ne suis pas sûr que ça ait eu le meilleur résultat pour la démocratie. C'est ce qui a conduit à Meloni. Et donc, je pense qu'il faut trouver, moi je le redis, il y a moyen de trouver une coalition, comme il y en a eu d'autres en France, coalition pour gouverner ce pays pendant un temps, le plus long possible, parce que ça veut dire que ça laisse le temps d'avoir une vision sur la suite. Et la suite, c'est
d'accord,
le calendrier.
Je vous écoute quand même, j'ai pas l'impression qu'on va être qualifié pour la super coupe. Vous voyez ce que
non,
je veux dire,
je suis assez d'accord. De toute façon, nous, là, on est des députés très particuliers parce que c'est très rare qu'on connaisse au moins l'échéance. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un an. D'habitude, on ne sait pas. Parce que quand on est élu, la solution peut venir trois mois plus tard. Là, on sait qu'on a un an.
Je vous ai vu réagir.
Je pense que ce que nous vivons, c'est un désarroi, car la figure tutélaire du président de la République n'est plus là. Et ça, c'est considérable ce qui est en train de se passer. Et je pense que le Parlement doit se montrer adulte et effectivement prendre en main ses responsabilités. Il y a suffisamment d'hommes et de femmes de très haut niveau. Il y a même un ancien président de la République, beaucoup d'anciens ministres qui peuvent en effet décider ensemble ce qui fait une coalition, ce qui ne le fait pas, là où il y a un périmètre commun de valeurs partagées, les grands textes déclaratoires par exemple, parce que sinon, le Parlement va donner l'impression d'hommes et de femmes qui sont perdus parce que le président n'est plus là. Vous savez, c'est la fable de La Fontaine, une grenouille qui demande un roi. Et ça, c'est catastrophique.
Comment vous vivez tout ça, vous, Thomas Ménager ?
Avec une forme d'inquiétude, c'est ce qui est celle des Français. Sur le terrain, les Français sont vraiment inquiets. Et il y a un enjeu aussi économique, ça a été dit. Si le projet du nouveau Front populaire s'applique...
Vous voteriez la confiance pour un gouvernement technique ?
Non, vraisemblablement pas, parce qu'un gouvernement de technocrates, alors que les Français attendent des politiques qui ont le courage politique, de la volonté politique, bien entendu, je pense qu'on est très loin de ce qu'attendent les Français et du signal qu'ils ont envoyé au premier tour, au second tour et aussi avant aux élections européenne. Mais nous, ce qu'on va continuer à faire, puisqu'on l'a fait, à la différence de la gauche, ne l'oublions pas, on va avoir une position d'opposition ferme, constructive, votant un certain nombre de textes éventuellement. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne sait pas où on va, mais nous, on aura toujours la même position constructive pour l'intérêt des Français.
Alors, en tout cas, au Rassemblement national, le président lui-même fait son autocritique aujourd'hui. Écoutez Jordan Bardella.
On commet toujours des erreurs, j'en ai commis, nous en avons commis, et je prends ma part aussi, ma part de responsabilité dans ce résultat. Ça nécessitera probablement que nous regardions les choses sur l'investiture d'un certain nombre de candidats que nous avons été amenés à écarter en début de campagne parce qu'ils ne répondaient pas à la ligne politique que je portais. Maintenant, c'est un socle sur lequel nous allons bâtir les victoires futures. Je crois que la victoire est différée.
Jordan Bardella, effectivement, sa part de responsabilité, notamment dans son incapacité, on va dire, à maintenir la dynamique entre les deux tours.
C'est là où on constate qu'on a des vrais chefs, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Dès lors qu'il y a un certain nombre d'échecs, d'erreurs, ils le reconnaissent. C'est là où on fait la différence avec Emmanuel Macron, qui continue depuis 7 ans sans se remettre en cause. Et c'est pareil pour de l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon. Donc nous, on reconnaît qu'il y a eu un certain nombre de ratés. Il y aura un travail qui devra être fait.
Lesquels? C'est intéressant qu'on ait votre analyse.
Il y a eu
un grand député, si je reste dans votre logique.
Non, mais il y a eu deux choses. Ça a été dit par Jordan Bardella. Il y a eu un problème de casting sur les dernières investitures qui ont été faites dans la précipitation avec des graves erreurs de casting, mais sur lesquelles on a pris des dispositions et on a pris des positions fermes.
Le problème, c'est les brebis galeuses.
Mais on l'a dit, mais ce qu'on peut quand même nous mettre à notre crédit, c'est le traitement de ces brebis galeuses. Deuxième point, il faut quand même aussi rappeler que Jordan Bardella nous a emmenés aujourd'hui à ce qu'on soit le troisième groupe à 143 députés, tous ensemble ici. Je pense que s'il y a deux ans et demi, on avait dit le Rassemblement national à 143 députés, personne n'y aurait cru.
C'est
donc
historique.
Aujourd'hui, 10 millions de voix en termes de voix. On a gagné tous les tours en termes de voix. On a gagné les européennes, le premier tour des législatives, le second tour. Il y a eu aussi des mécanismes de désistement, des comportements plus ou moins républicains ou anti-républicains, parce que quand on voit que M. Balanant et le Bloc central a apporté ses voix à Raphaël Arnaud, triple fichier S, quand même des personnes qui sont aujourd'hui des dangers d'ultra-gauche.
Alors, c'est amusant parce qu'on est parti de l'autocritique, mais maintenant vous êtes en train de nous dire on est les meilleurs.
J'ai reconnu, nous avons reconnu.
Très rapide.
Non, mais il y a eu un deuxième élément qui a été traité, vous le savez, sur la question aussi, on a été mal compris, on a été déformé sur la question de la binationalité, où on a été sali alors qu'on parlait que de quelques métiers et on ne remettait en cause en rien la binationalité. Donc on a aussi vécu un tapage politico-médiatique qui a déformé un certain nombre de nos mesures, pareil sur les retraites. Donc il y a bien entendu une autocritique à faire. On le fera, on l'a fait et on va continuer à le faire pour se préparer pour la suite parce que c'est les Français qui sont en jeu. Mais on faut aussi reconnaître qu'on a vécu une cabale assez forte entre les deux.
Attendez, on refait pas les débats d'avant élection, si vous le voulez bien. Brice Hortefeux, je me tourne vers vous. Louis Alliot réclame un examen de conscience. Monsieur Bild explique que le RN ne peut pas continuer comme ça. Est-ce que c'est le début d'un grand ménage, vous pensez, sur votre droite, au Rassemblement national? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire?
Vous tournez vers moi pour me demander ce que.
Parce que ça nous intéresse.
Il y a un examen de conscience au Rassemblement national.
Parce que vous avez souvent été traité d'extrême droite, monsieur Hortefeux, en utilisant vous les termes d'extrême droite.
Il y a des millions de Français qui ont voté pour eux, ça doit vous interpeller.
L'exemple qui était cité, c'est l'exemple sur l'erreur qu'il y a eu sur les binationaux. Vous voyez, c'est un exemple. Pardon, là, c'était très technique, et comme les souvenirs d'anciens ministres de l'Intérieur.
Ah oui?
Et sur un sujet comme ça, ça prouve qu'il n'y avait pas eu de préparation. Parce que la question se pose parfois.
Mais vous nous dites qu'ils ont fait preuve d'amateurisme.
Attendez, un peu. Sur cet aspect-là, visiblement, il y a eu une expression qu'on s'est dit sans doute on va faire choc, on en va en parler, ça va être un sujet. Bon, tout ça. Mais en réalité, techniquement, il faut savoir que quand il y a un sujet de cette nature, les services de renseignement passent au peigne fin et toute une série de critères et vous n'imaginez pas jusqu'à quel point et jusqu'où ça remonte. Donc c'est pour ça, là c'est un exemple d'impréparation. Voilà. Donc c'est effectivement, ça rassure pas. C'est une erreur qui a été commise, mais s'il la reconnaît, c'est très bien.
Amandine Atalaya, on entend beaucoup parler de plafond de verre depuis hier soir pour le RN. Est-ce qu'on vient d'en avoir la preuve et est-ce que c'est un handicap potentiel pour 2027?
C'est pas du tout la même élection 2027. Et là, le premier obstacle au Rassemblement national, c'est quand même le Front républicain qui a fonctionné au-delà de ce qu'espéraient même ceux qui l'ont mis en place. Ne parlons pas des sondeurs, voilà, qui avaient sous-estimé sa puissance. C'est ça le premier obstacle du Rassemblement national. Après, il y a de fait une campagne que beaucoup au sein même du Rassemblement national juge mauvaise, un peu erratique. Il y a non seulement ces candidats soit loufoques, soit pour certains antisémites, soit pour certains racistes, soit pour certains mauvais. Hein. On l'a vu dans des débats très locaux, par exemple, incapables de répondre à la moindre question. Il y a cette question de la binationalité avec, par exemple, M. Roger Chudeau qui dit que Najat Vallaud-Belkacem, binationale, n'aurait pas dû être ministre de l'Éducation nationale. Il y a Marine Le Pen aussi qui explique que les prérogatives d'Emmanuel Macron, notamment en matière de défense ou d'international, ne sont que décoratives, plus ou moins, et ça a pu effrayer une partie de l'électorat de droite, donc il y a aussi cette mauvaise campagne dans l'immédiat, mais est-ce vraiment une mauvaise situation ce qui arrive en ce moment pour le Rassemblement national à terme? C'est-à-dire un pays ingouvernable ou alors un pays gouverné dans l'immédiat par la gauche, mais avec tous ces frustrés, tous ces 10 millions de frustrés qui ont voté pour le Rassemblement national et qui ne se sentent toujours pas représentés aujourd'hui, pas forcément, c'est certainement le terreau d'un parti qui va continuer de croître dans les années à venir.
C'est peut-être une chance pour Marine Le Pen pour 2027.
Beaucoup de gens,
ce qui est en train de se passer.
Beaucoup de gens suggèrent que le Rassemblement national n'avait pas intérêt, et le savait, à prendre le pouvoir tout de suite.
Oui.
D'abord, à cause de la grenade dégoupillée dont je parlais tout à l'heure,
absolument,
la grenade budgétaire notamment, et qui est qu'en réalité, il n'était pas réellement préparé. Alors ça s'est vu dans les investitures, ça s'est un petit peu vu dans le programme, dont on a vu que sous la glace, finalement, la glace était très fine, la glace du programme, assez rapidement, on voyait qu'il y avait soit des choses pas très claires, soit des palinodies assez rapides, à mesure qu'on s'est rapproché du pouvoir, du pouvoir potentiel, n'est-ce pas ? On a constaté qu'il fallait rétro-pédaler, il fallait nuancer, qu'il ne restait plus grand-chose économiquement, par exemple, ça s'est frité pas mal. Il manquait sans doute 2-3 ans de préparation et il manque de la professionnalisation. Ils vont maintenant avoir le temps, c'est sûr, pour le faire.
Pensez-vous, Jean-Pierre Mignard, que les Français ont eu peur du Rassemblement national dans la dernière ligne droite ? Ce qui ne retire rien au succès qui a été le leur, en millions de voix.
Contestablement, mais il y a eu un sentiment d'impréparation, de désordre qui, en effet, a inquiété. Et je pense que ça a beaucoup joué. De surcroît, ce qu'on a appelé improprement peut-être le Front républicain a montré une sorte de cohérence et d'unité par rapport à ce désordre du Rassemblement national, ça a joué. Cela dit, ne nous faisons pas d'illusions pour l'avenir. Le Rassemblement national a eu des résultats de second tour qui étaient quelquefois très impressionnants, je dois le dire. Ce n'est pas sur ce point adhéré que de le reconnaître. Et donc, les questions sont très ouvertes en 2027, ce qui veut dire que la question sociale est une question majeure si on veut désembourber des millions d'électeurs de l'espèce de carcan dans lequel le Rassemblement national les a enfermés.
Merci.
Ce qui veut dire qu'on ne les parque pas, qu'on leur parle, ce sont des citoyens comme les autres. Et là, sur ce point, il y a quelquefois des attitudes de mépris qui sont insupportables.
Merci à tous.